va lire à partir du verset 7 du premier chapitre. Puis, comme on a dit, ben, ces visions-là sont introduites par je regardais, je levais les yeux, souvent je vis. C'est comme ça qu'il me fit voir, que vois-tu? Je levais de nouveau, je lève les yeux. Donc, c'est toujours quelque chose que Zacharie peut voir. C'est une vision qu'il peut voir. Puis c'est une vision qui est de nuit aussi, comme on voit dans le premier verset, ou le verset 8, c'est-à-dire. Donc le verset 7 de Zacharie 1, il nous est dit ici, le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Chébat, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Le Seigneur va ajouter une bénédiction à la lecture de sa parole ensemble ce soir. On va lui demander son aide. Seigneur notre Dieu, on veut se tourner devant toi ce soir pour te demander encore une fois, notre Dieu, comme tu le fais toujours, tu nous bénis par ta parole, Seigneur. Puis on apprécie cette parole. On apprécie que tu nous aies révélé ces choses, Seigneur, et on veut les connaître, on veut s'approcher de toi pour les connaître. On te remercie aussi que tu nous as donné ton esprit afin qu'on puisse comprendre les choses que tu as écrites dans ta parole. Et on te remercie du fait qu'on a toute l'écriture pour comparer verset avec verset, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre le message que tu as voulu faire entendre, premièrement à Zacharie, mais aussi on sait, Seigneur, que dans ta parole, il y a toujours des choses qui sont bonnes pour nous autres, qu'on peut prendre et appliquer dans nos vies. On te remercie pour cela, Seigneur. On te demande ta bénédiction sur chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, on a la première vision. La première vision, mais c'est le cavalier parmi les myrtes. On voit qu'il s'appelle, c'est un homme, c'est un ange, mais ça nous parle du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. On va voir ça en avançant. Donc, comme on a dit, la première vision concerne, c'est une évaluation de la situation. C'est que ici, là, on voit la situation qui est prévalente, que ces visions nocturnes-là que Zacharie voit, mais c'est à partir de la situation actuelle à ce moment-là, au moment où Zacharie était, on sait que c'était le retour de l'exil. Ils avaient été exilés à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance à Dieu. Et Dieu les avait envoyés à Babylone. Puis après 70 ans, parce qu'il mentionne les 70 ans ici, on sait que les 70 ans, c'était la captivité que Dieu leur avait donnée. Donc ces visions-là concernent Israël, puis c'est Israël au temps des nations. C'est ça que dans la parole de Dieu, quand on voit le temps des nations, c'est à partir de Babylone. Puis avec les quatre empires qu'on voit, Babylone, les Mèdes et les Perses, et ensuite les Grecs, puis ensuite de ça, Rome. Donc c'est ça, c'est le temps des nations. Quand on parle du temps des nations, on parle du temps où Dieu a enlevé le royaume à Israël. Puis c'est pour un temps, c'est pas pour toujours, mais il a enlevé le royaume à Israël On sait que Dieu avait fait une entente avec David, il avait fait une alliance avec David, que son trône serait éternel. Puis il y avait une condition toujours s'ils obéissaient. Mais on sait que Dieu, pour accomplir, rendre éternelle cette alliance-là avec David, ben c'est lui qui vient dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui va être obéissant éternellement. Donc, c'est lui qui garantit la certitude de cette alliance-là pour l'éternité. Donc, ces visions-là concernent Israël au temps des nations. C'est de Babylone à Rome. C'est les empires qu'on voit là-dedans. Donc, l'homme ici, qui est appelé aussi l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel qu'on voit aussi à d'autres endroits dans le Nouveau Test dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire. C'est que c'est le Seigneur Jésus qui apparaît sous la forme d'un ange, puis qu'on voit dans plusieurs endroits que cet ange-là est le Seigneur Jésus parce qu'il reçoit l'adoration, son nom est merveilleux, il y a tous les attributs de Dieu qui lui sont attribués. Donc, c'est vraiment une pré-incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu chair, il s'est fait homme, mais avant, dans l'Ancien Testament, il a apparu dans plusieurs endroits. Même ça, c'est une étude intéressante de voir les endroits où l'ange de l'Éternel est apparu dans l'Ancien Testament. Différents endroits, c'est le Seigneur Jésus. Donc, il est appelé homme, il est appelé l'ange. Ici, c'est l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Une chose qu'on voit, c'est que l'Éternel est irrité contre les nations. Des nations, on parle du temps des nations, là. Mais l'Éternel est irrité contre ces nations-là. Pourquoi? C'est sûr que c'est Dieu qui les a utilisés comme l'instrument d'apporter un jugement sur son peuple Israël. Mais ces nations-là qui ont été utilisées par Dieu, c'est Dieu qui leur a donné cette puissance-là pour pouvoir exercer un jugement sur son peuple Israël qui était désobéissant. Mais ces nations-là n'ont pas reconnu la puissance de Dieu, puis ils n'ont pas reconnu que Dieu était au-dessus d'eux, puis ils ont été, peut-être, ils ont été trop loin dans le traitement qu'ils ont donné au peuple d'Israël, puis c'est pour ça que le Seigneur est irrité contre eux autres. Vous savez, on sait que les gouvernements qu'aujourd'hui, les gouvernements c'est une Dieu a délégué le pouvoir au gouvernement, puis il y en a plusieurs qui ne tiennent pas compte que c'est Dieu qui leur a délégué un pouvoir. Puis, ils ne pensent pas qu'un jour, ils auront à rendre compte à Dieu de la façon dont ils ont utilisé le pouvoir qui leur a été délégué par Dieu. Mais n'empêche qu'il va falloir qu'ils reconnaissent un jour parce qu'ils auront à rendre compte. C'est ça qu'il nous dit de prier pour les autorités, puis pour prier pour eux autres. Puis, je pense que quand Nebuchadnezzar, qui était une autorité il était le roi de Babylone, je suis certain que Daniel, puis ses amis ont prié pour Nebuchadnezzar. Puis bien, on voit dans Nebuchadnezzar que lui a reconnu à un moment donné à cause du fait que le Seigneur a permis des situations dans sa vie qui l'ont amené à réaliser que Dieu était au-dessus de lui. Il pensait au début qu'il était lui qui était souverain, mais il a réalisé à un moment donné que Dieu était au-dessus de lui. C'est une grande bénédiction de réaliser ça. Donc l'Éternel est irrité contre les nations parce qu'ils ont été l'instrument dans les mains pour le châtiment de son peuple, mais ils sont allés trop loin un peu, ils sont allés au-delà de ce que Dieu avait voulu. Donc, mais ça démontre aussi une chose, c'est que Dieu est au contrôle de ces puissances-là, même si on les voit comme des grandes puissances. C'est certain qu'au temps de la captivité, eh bien, Nebuchadnezzar, c'était une grande puissance. Le royaume de Babylone, c'était quelque chose de grand, de puissant, mais Dieu, quand même, puis nous autres, on peut voir ça aussi aujourd'hui quand il y a des gens qui semblent vraiment puissants. Il faut toujours se rappeler, nous autres, que Dieu est au-dessus. Puis nous qui sommes avec le Seigneur, bien, on est en sécurité avec lui. Il ne va pas permettre au-delà de ce que lui veut. Puis c'est ça le Seigneur est capable de ramener à l'ordre ces nations-là, comme il l'a fait. On va voir qu'il l'a fait aussi. Mais l'Éternel est au contrôle. Puis ces nations-là qui l'ont oublié. Mais quand même, le Seigneur leur a rappelé, on pense dans Daniel, si on va dans Daniel au chapitre 4, on va voir par rapport à Nebuchadnezzar qu'il a fallu qu'ils reconnaissent. Mais c'était une expérience difficile pour lui. Mais ça prenait ça, on a besoin d'être humilié devant Dieu. Quand on est humilié devant Dieu, ça nous remet à notre place, puis ça nous fait reconnaître la puissance de Dieu. Donc, dans Daniel, au chapitre 4, si on lit à partir du verset 34 à 37, c'est après que le roi a été mis à l'écart, il y avait eu un songe que Daniel lui avait expliqué, puis Daniel lui avait dit de cesser ses péchés, puis tout ça, mais il a pas écouté, mais Dieu l'a emmené à sa place, il l'a amené à reconnaître la puissance que Dieu avait au-dessus de lui. Donc, peut-être on va lire le verset 33 pour le contexte. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangeait de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué. Donc, le Seigneur, on voit toujours que le Seigneur est au contrôle. C'est un temps marqué. Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre, y compris les rois, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Il est capable de le faire. Donc, non seulement c'était quelque chose de grand quand Dieu a pris Nebuchadnezzar, puis qu'il l'a mis dans un champ, puis qu'il l'a mis comme une bête à être trempé de la rosée du ciel, puis manger comme un bœuf de l'herbe. C'était une grande chose que Dieu fasse ça, qu'il prenne ce roi-là qui était aux yeux de tout le monde de ce temps-là, qui était la puissance mondiale, puis qu'il l'abaisse comme ça à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose aussi de le reprendre de là, puis de le remettre à son poste avec la puissance que Dieu l'avait donnée, mais avec un cœur différent à ce moment-là, parce que maintenant, il reconnaissait que c'est Dieu qui est au-dessus, puis qu'il n'y a personne qui peut, on est juste, même les rois ne sont que néants devant lui à cause de sa puissance. Donc, lui, Nebuchadnezzar, il a appris ça. Puis c'est une bénédiction. Nous autres aussi, il a fallu apprendre ça, parce que nous autres aussi, on était arrogants. Puis nous autres aussi, on pensait qu'on était maître de notre propre sort. Mais quand on a été humilié, qu'on a été amené à reconnaître que Dieu est au-dessus, puis que c'est en lui qu'il fallait se confier, bien, on a pu, ça a changé nos vies, comme ça a changé la vie de Nebuchadnezzar ici, là. Donc, mais on voit que quand il nous dit, je regardais pendant la nuit, au verset 8, et voici, un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Donc, quand on parle des myrtes ici, là, c'est vraiment le Seigneur est au milieu de son peuple. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, que le Seigneur est au milieu de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur est au milieu de son peuple? Ça veut dire que le peuple est en sécurité parce que Dieu est au milieu. Puis ça nous rappelle. On se souvient quand Moïse, dans le désert, a vu un buisson en feu. Puis, quand il regardait, le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Puis, du buisson, il a entendu la voix qui est venue vers lui, qui lui a parlé. Moïse, Moïse. Donc, il a reconnu la voix qui était au milieu du buisson. Puis, c'est le fait que c'est la voix de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus qui parlait du milieu du buisson. Eh bien, ça démontrait une chose, que Dieu était au milieu de son peuple. Puis même dans la fournaise de l'Égypte, dans les persécutions, puis dans l'esclavage de l'Égypte, le peuple ne se consumait pas. On se souvient, hein, quand ils ont voulu détruire le peuple, ils ont voulu faire mourir les garçons, ou bien le peuple se multipliait en dépit des persécutions, en dépit du fait que le pharaon voulait les faire mourir, le peuple devenait de plus en plus grand. C'est parce que le Seigneur était au milieu. C'est pour ça qu'il devenait grand. Puis Moïse a reconnu que c'était à cause de ça que le buisson ne se consumait pas. Comme Israël, le buisson représentait Israël, puis la voix qui est sortie du buisson, mais ça parle du Seigneur Jésus qui était au milieu de son peuple, qui prenait soin de son peuple. De la même façon ici, se tenait parmi les myrtes. Donc, quand on parle des myrtes ici, le dictionnaire Larousse nous dit que les myrtes, c'est une herbe à feuillage toujours vert, à petites fleurs blanches d'une odeur agréable. Donc, c'est un peu une description ici du peuple d'Israël. Les myrtes, c'est une herbe, c'est pas un grand arbre, c'est une herbe à feuillage toujours vert. Puis, à petites fleurs blanches d'une odeur agréable. Donc, si lui, l'ange de l'Éternel, était au milieu des myrtes, ben, ça nous dit qu'il trouvait quand même un plaisir. C'est une odeur agréable quand qu'il était parmi son peuple. Quoique son peuple ait besoin d'être châtié, qu'il a besoin, parce que même le châtiment de Dieu, c'est une bonne chose. Comme un père châtie son enfant, ben, c'est sûr qu'au début, ça ne sent pas un sujet de joie, le châtiment, mais ça produit par la suite un fruit paisible de justice. Puis le Seigneur qui est au milieu de son peuple, parce que le Seigneur prend plaisir à son peuple et il va prendre soin. On va voir comment il a quand même un désir encore pour son peuple. Il n'a jamais rejeté son peuple. Mais ça nous dit que si les myrtes nous parlent d'Israël, ben, l'ange de l'Éternel est au milieu, il est parmi les myrtes. C'est quelque chose aussi qu'on voit toujours, hein, le Seigneur est au milieu des siens. On voit aussi là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est la présence du Seigneur que peut-être qu'Israël, puis je crois qu'il l'avait oublié, que le Seigneur était parmi eux, mais là, ils se le font rappeler. Puis nous autres aussi, des fois, ça peut nous arriver d'oublier que le Seigneur est parmi nous, là, quand on est réunis en son nom, que le Seigneur est parmi nous. Il ne faut jamais oublier la présence du Seigneur. Puis si le Seigneur est là, ça va se traduire par une révérence dans la présence du Seigneur. Puis c'est ça qui manquait comme en Israël. Mais il dit qu'il était dans un lieu ombragé. Il se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Donc, Israël dans l'ombre, si on pense au temps de David et de Salomon, l'apogée un peu de la gloire, il n'était pas dans l'ombre. Il était vraiment en plein jour, au point que les nations au-delà entendaient parler, même la reine de Saba qui a entendu parler de la gloire de Salomon a été poussée à venir contempler cette gloire-là. Puis quand elle l'a contemplée, elle a été éblouie. Elle a dit la réputation n'avait pas fait connaître la moitié de la gloire de Salomon. Puis elle était contente d'être venue voir ça. Mais là maintenant, Israël n'est plus dans la gloire comme ça. Israël est dans un lieu ombragé. Il a été apporté en captivité à Babylone. Puis là, il y a un faible reste qui est revenu pour reconstruire la ville, reconstruire leur maison, mais aussi reconstruire le temple de l'Éternel. Mais ça se fait tranquillement, puis avec peut-être un manque de dévotion aussi. Donc, ils sont encore dans l'ombre. Israël dans l'ombre, sont outragés, sont opprimés. Puis eux qui autrefois était la tête des nations. Et comme on avait dit, on parle de David et Salomon, là, il était la tête des nations. Puis là, maintenant, ils sont dans un lieu ombragé. Vous savez, le Seigneur les a humiliés. On va aller peut-être dans Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome, le chapitre 28, c'est un chapitre qui est quand même remarquable parce que c'est comme l'histoire d'Israël qui a été écrite d'avance. C'est leur histoire qui a été écrite d'avance. Puis, c'est des conditions de l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Et il y a des conditions à la bénédiction. Vous savez, on n'est pas sauvé par notre obéissance, mais on est béni dans l'obéissance. Puis, il y a une différence. Le salut n'est pas dans notre obéissance. Le salut est dans la foi qu'on met dans l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. Mais par rapport à la bénédiction nous vient dans l'obéissance. Puis c'est pour ça qu'on voit toujours que, comme il dit au chapitre 28 de Deutéronome et au verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et vous, c'est eux qui avaient la domination sur la terre. Là, on parle, on est rendu au temps des nations, que maintenant le royaume a été donné aux nations. Mais avant ça, dans l'obéissance, puis on sait que David était obéissant, Salomon l'a été au début, puis il a commencé à décliner. Puis en commençant à décliner, on a vu que la bénédiction a commencé à décliner aussi à cause du fait qu'il était désobéissant. Puis dans leurs fils, les fils on pense à Roboam et tout ça, la gloire a diminué en Israël à cause du fait qu'ils n'ont pas été obéissants. Il dit au verset 2 de Deutéronome 28, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Voyez-vous, tout le temps la bénédiction là ici. Mais au verset 13, peut-être au verset 12, il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettra en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Mais il y a un mais. Là, on arrive à un mais. Donc, la bénédiction leur était accordée dans l'obéissance. Mais il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, on voit que Dieu a commencé à lui couper les bénédictions. Comme il dit ici, ta corbeille et ta huche seront maudits. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Et, vous savez, le Seigneur a une façon de nous bénir des fois. On dirait qu'avec même si on a peu, on est dans l'abondance. Puis des fois, avec dans l'abondance, on a peu. Donc, la bénédiction de l'Éternel, il peut nous bénir quand on n'a presque rien. Puis il peut nous donner des épreuves quand on est dans l'abondance. Donc, c'est sa façon de le faire. Même son peuple, quand ils ont marché dans le désert, ils ont dit que leurs souliers ne s'étaient point usés. Puis Dieu a pourvu dans peu. Dieu a pourvu à leur abondance. Puis le Seigneur peut faire ça. Mais c'est sûr qu'à mesure, Dieu leur a parlé par les prophètes pour les ramener à la repentance, mais ils n'écoutaient pas. Mais on voit qu'à un moment donné, au verset 49, il dit, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Il nous décrit vraiment, ce qu'il nous décrit là, c'est l'exil à Babylone, la déportation à Babylone. C'est cette nation-là qui parle ici, là. Puis, éventuellement, encore, ça va aller plus loin parce qu'au verset 64, au verset 63, il dit de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. De même, l'Éternel prendrait plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Donc là, ce n'est pas juste à Babylone. Ça nous parle de la dispersion d'Israël dans l'année 70, quand ils ont été conquis Jérusalem a été détruite, puis les Israélites ont été éparpillés dans toutes les nations, comme on le voit aujourd'hui. Il dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante, ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence, dans l'effroi qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous offrirez en vente à vos ennemis, comme serviteurs, comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Donc, on voit là, qu'est-ce que le Seigneur a fait. C'est un peu leur histoire qui est écrite d'avance, puis à cause du fait qu'ils n'ont pas été obéissants. Donc, les bénédictions viennent dans l'obéissance, les malédictions viennent dans la désobéissance. C'est comme ça pour nous autres aussi. Si on est obéissant, on va avoir des bénédictions, on va avoir la présence du Seigneur avec nous autres, mais si on est désobéissant, ben, on va voir du trouble dans nos vies chrétiennes. Mais à travers tout ça, quand même, Dieu avait fait des alliances, puis Dieu va les accomplir. Ils vont revoir un temps d'une gloire, mais ça va être une gloire tellement supérieure à celle même de David et de Salomon. Ça, c'est important. On voit ça dans Romains 11, 29. Seigneur Paul, qui comprenait bien le futur d'Israël, qui comprenait bien les intentions de Dieu envers Israël, selon les promesses qu'il leur avait faites. Il dit, parce qu'il dit dans Romains 11, 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Puis, il va avoir vraiment une grande bénédiction pour Israël. Il dit au verset, chapitre 11 de Romains, au verset 12, il dit, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Puis dans le verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Et si Dieu abandonnait son peuple, puis qu'il n'y avait plus de futur pour Israël, où serait la gloire de Dieu là-dedans? La gloire de Dieu, c'est qu'il est capable, en dépit de toute leur désobéissance, en dépit. Et ça nous parle un petit peu de la sécurité éternelle du croyant. Parce qu'Israël sont comme une image pour nous autres, là. Si Dieu avait abandonné son peuple d'Israël, puis qu'il n'y avait plus de futur pour Israël, on pourrait dire, ben, nous autres, on n'aurait pas la sécurité là, éternelle. Mais si Dieu n'a jamais abandonné son peuple, il les a fait passer à travers des circonstances difficiles pour les châtier, comme nous aussi, si on se détourne du Seigneur, le Seigneur est capable de nous châtier comme un père châtie son enfant. Puis on peut avoir des temps difficiles, puis plus on va avoir le cou raide, plus ça va faire mal. Mais Dieu nous ramène, comme il ramène son peuple. Toutes ces choses-là, c'est un peu une image pour nous du salut éternel que Dieu nous offre, là. C'est la vie éternelle, mais il va nous châtier. Quand on a besoin d'être châtié, il va nous bénir. Quand on est obéissant, il va nous donner des malédictions. Quand on est désobéissant, mais on est sûr parce que c'est notre salut est garanti par le Seigneur Jésus qui lui était parfaitement obéissant. Il était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Israël vont revoir un temps de gloire, d'une grande gloire. Mais les nations, ils n'ont pas compris ça, là. Les nations qui étaient les juges, ils n'ont pas compris ça, que Dieu allait revisiter son peuple, qu'elle allait, même il les a ramenés, comme on a dit, c'est un accomplissement rapproché de la prophétie qui a été faite par Zacharie, mais il les a ramenés à ce moment-là. Mais les nations, ils n'avaient pas vu ça parce qu'ils se croyaient en pleine sécurité. Mais ils ne l'étaient pas parce que Dieu allait les ramener à l'ordre. Mais juste en passant aux myrtes, on voit les myrtes, on les voit dans Néhémie. Si on va dans Néhémie au chapitre 8, dans les endroits où les myrtes sont mentionnées, ici, qu'on a dit que c'était une herbe à feuillage toujours vert, à petites fleurs blanches, d'une odeur agréable. Ici, dans Néhémie au chapitre 8, au verset 15, il dit, et proclamez cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Donc, on voit qu'il y avait des myrtes aussi parmi ces rameaux-là ils devaient aller chercher. Dans Ésaïe, on voit aussi les myrtes. dans Ésaïe, au chapitre 41 et au verset 19. Ésaïe 41, au verset 19, il dit: Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble. Donc, il nous parle ici du myrte et de l'olivier. Puis, si on va dans Ésaïe 55 aussi, il parle aussi du myrte. Puis, dans Ésaïe 55, on voit que c'est le myrte ici qui représente Israël. Ésaïe 55, au verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel, impérissable. Donc, encore là, on voit la bénédiction de Dieu qui va venir, qui va les restaurer. Au verset 11, dans notre premier chapitre de Zacharie, il dit ici: Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et dirent: Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Donc, ici, c'est quoi qu'il veut dire que la terre est en repos et tranquille? Ben, c'est comme si c'était un repos dans le péché, dans l'iniquité. Puis, les nations sont en repos, mais ils ont besoin d'être jugés, eux aussi. Mais les nations sont en repos, puis Dieu est touché par la douleur de son peuple. Puis, vous savez, Dieu est touché par ces choses-là. Puis, c'est comme un peu nous autres aujourd'hui, là. Quand on lutte pour le bien, mais il semble que le mal, est victorieux, puis on essuie des défaites. Hein, on dirait qu'on veut faire le bien, mais le mal, lui, semble progresser, puis tout va bien. Puis, nous autres, on a quand même on essuie des défaites, puis c'est décourageant. Vous savez, c'est comme si. Ceux qui se tournent vers le mal, les autres, ils semblent prospérer. Puis nous, quand on veut suivre, on veut marcher selon le Seigneur, il semble qu'on a des difficultés, on rencontre de l'opposition, des difficultés. C'est comme on peut être allé dans le psaume 73 pour un moment, parce que Asaph avait vécu un moment comme ça aussi, hein. Dans le psaume 73. Il se demandait, il en était venu à se demander pourquoi chercher à faire la justice. Il dit au verset 1, psaume d'Asaph: Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune peur aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voyez-vous le moment où Asaph ici commence à voir ça, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon sentiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à. Donc, la différence, c'est quoi? Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Puis là, il commence à décrire le sort final des méchants, là. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. C'est là qu'on voit vraiment la différence, là. C'est sûr que nous autres, on souffre pour un temps. Mais les méchants, ils vont souffrir pour l'éternité. Puis c'est ça qu'il faut toujours se rappeler. Puis Asaph, jusqu'à ce qu'il rentre dans le sanctuaire de Dieu, puis dans ce qu'il commence à contempler, pas juste le temps présent, mais à contempler l'éternité. C'est ça qu'on voit la différence ici. Que nous autres, oui, on souffre pour un temps, mais dans l'éternité, on ne va pas souffrir. Tandis que ceux qui semblent être prospères pour un temps, eh bien, dans l'éternité, eux, ils vont souffrir. Donc, c'est important de réaliser ça. Puis on se demande, est-ce que nous autres, on est du bon côté? Est-ce qu'on a choisi le bon côté? Il ne faut pas se décourager parce que ici, Israël pouvait dire ça aussi. Est-ce qu'on est du bon côté? Parce que là, c'est les nations qui dominaient sur eux autres, qui les traitaient d'une façon difficile, puis, mais ils étaient dans le trouble. Mais on voit par exemple au verset 12, là, on voit l'intercession de Christ. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Donc, dans la situation, la terre est en repos. Le Seigneur n'avait pas agi. Il n'avait pas amené un jugement sur ces nations-là. Puis là, mais là, l'ange de l'Éternel, il intercède. Puis il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, l'Éternel? Fait il demande que Dieu vienne, qu'il devienne, qu'il commence à agir envers ces nations-là. C'est pour ça que nous autres aussi, des fois, on pense, c'est comme s'il est occupé à quelque chose, hein, comme quand Élie était sur le mont Carmel avec tous les prophètes de Baal, puis, et Baal, il répondait pas. Fait que là, il a dit, ben oui, mais peut-être qu'il est parti en voyage, ou ben, peut-être qu'il dort, ou ben, tu sais, fait qu'il a commencé un peu à se moquer des autres. Mais au temps d'Élie, parce qu'il le Baal ne répondait pas. Puis des fois, on se sent un petit peu comme ça, c'est comme si l'Éternel ne répond pas. Mais l'Éternel entend, puis on voit le Seigneur Jésus-Christ qui intercède, il intercède pour nous. C'est un petit peu comme dans le chapitre 4 de Marc, là, les versets 35 à 41, lui, il dormait à la poupe sur le coussin. C'est un petit peu la même situation, là. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ben oui, le Seigneur s'inquiétait de ce qui périssait, mais il les a repris, il a dit, comment n'avez-vous point de foi? Il était parmi eux, il était dans le bateau avec eux, puis il était en sécurité parce qu'il était avec eux. Donc, il faut comprendre ça un peu, là. Dans le psaume 121, versets 3 à 8, il dit, Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc, puis même dans Marc 6, 48 aussi, on voit tout le temps la présence du Seigneur qui prend soin de son peuple. Il dit, dans Marc 6, 48, il dit, Il vit, lui était sur la montagne, eux, ils étaient sur la mer, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Le Seigneur l'a vu. Les autres, ils étaient pris dans la tempête, le vent était contraire, ils ramaient, ils réussissaient pas à progresser. Mais le Seigneur les a vus, puis il est venu vers eux autres pour les délivrer. Il faut toujours réaliser que le Seigneur est là. Il n'est pas inconscient de ce qui nous arrive, de nos combats. Il est toujours là, puis il intercède pour nous. On a tellement besoin de son intercession. Puis le Seigneur, jamais, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Puis dans tous les temps, il a toujours été, il n'a jamais sommeillé ni dormi. Il a permis des choses pour son peuple, mais il a pris soin de son peuple. Puis la preuve, c'est que son peuple existe encore aujourd'hui. Avec toute la persécution, avec tout l'effort du malin pour les détruire, puis encore là, dans la tribulation, comment il va essayer de les détruire, il va mettre le comble à son effort pour détruire Israël, mais le Seigneur va les préserver. Puis il va avoir un reste d'Israël qui vont être sauvés dans une journée. Au verset 14, il dit, verset 13, il dit, l'Éternel répondit par de bonnes paroles. Donc, il y a l'intercession de l'ange de l'Éternel pour le peuple, l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Puis l'Éternel répond à cette intercession-là. L'Éternel répondit par de bonnes paroles et par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Donc, le Seigneur répond d'une façon favorable à l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. On le voit dans le chapitre 17 de Jean, qui prie pour nous autres. Il nous laisse dans le monde, mais il a prié pour nous autres, puis il continue de prier pour nous autres. Puis l'Éternel répond à l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 14, et l'ange qui me parlait me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Donc ici, l'ange de l'Éternel a intercédé auprès de l'Éternel. Il reçoit des paroles ici, des bonnes paroles, puis des paroles de consolation. Ensuite de ça, il les transmet à travers le prophète Zacharie. Il dit, va, puis dit, comme il dit ici, me dit, crie, puis dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Vous savez, la jalousie, des fois on dit que c'est comme la colère, c'est un péché, la jalousie. Mais ce n'est pas la colère ou la jalousie elle-même qui est un péché. Vous savez, quand on aime quelqu'un, ben on va être jaloux. On veut pas, on veut préserver celui ou celle qu'on aime, on va les préserver. Mais c'est la jalousie, c'est des sentiments comme la colère, c'est des sentiments qui sont très forts. Puis quand c'est des sentiments qui sont tellement forts que nous autres, à cause de notre péché dans la chair, on va exprimer la chair, on va exprimer le péché qui est dans notre chair. Mais Dieu, quand Dieu est jaloux, Dieu se met en colère, Dieu, lui, il est sans péché. Puis Dieu n'exprimera jamais le péché dans sa jalousie ou dans sa colère. Mais il dit qu'il c'est un amour, il témoigne d'un amour pour Sion, là. Puis Sion, c'est quoi? Mais Sion, c'est Jérusalem dans la gloire. C'est le nom qui est donné à Jérusalem dans la gloire. Mais il dit qu'il y a une grande irritation. Cette irritation-là, elle n'est pas contre, comme il dit ici, je suis ému d'une grande jalousie et pour Sion, et je suis, au verset 15, je suis saisi d'une grande irritation, pas contre Israël, contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Donc ici, son irritation est contre les nations, pas contre Israël. Puis dans Romains 8, 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Puis il faut réaliser ça, mais il est contre ceux qui sont dans leur péché puis qui ne veulent pas se repentir. Ils vont rencontrer le jugement de Dieu. Puis il est irrité d'une grande irritation à cause du péché. Mais pour nous, on ne voit pas Dieu comme ça. Des fois, en tant que chrétien, on a toujours l'idée que Dieu, c'est un Dieu qui veut nous punir, qui cherche toujours à nous. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, il est pris, comme il dit ici, il était d'une grande jalousie pour Jérusalem. Il aime Jérusalem, il va en prendre soin, mais il a besoin de la châtier pour la ramener. Mais c'est la même chose pour nous autres. Nous autres, on a cette assurance-là que Dieu est pour nous, parce qu'il est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Puis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui va pouvoir réussir à nous ébranler quand Dieu est pour nous? Les versets 16 et 17, ils disent, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau, hein, il prophétise, transmet ce message-là à mon peuple. Il dit, crie de nouveau, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Dans le psaume 126, les versets 1 et 2, il dit, quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand ils ont été ramenés, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Puis il dit, au verset 5 et 6, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Et vous, la bénédiction de l'Éternel va ramener une grande joie à son peuple parce que le Seigneur ne les a pas abandonnés. Il est pris d'une grande jalousie pour son peuple et il veut encore les bénir. Il va encore les bénir. Puis quand il les a ramenés de la captivité, il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est quand on fait un rêve, c'est tellement beau qu'on se réveille, ah, c'est un rêve. Mais là, ce n'est pas un rêve, c'est de la réalité. L'Éternel ramène les captifs, il les ramène dans leur pays. Puis on sait que ce qui s'est passé à ce moment-là, l'accomplissement rapproché de cette prophétie-là, n'était pas aussi grand que quand l'accomplissement éloigné, quand le Seigneur va finalement, il va prendre, on va le voir en avançant dans les autres visions, là, il va prendre. C'est lui qui va prendre. Là, il a donné l'empire, le royaume aux nations, mais un jour, il va le reprendre. Il va le reprendre, puis c'est lui qui va avoir la domination, puis il va donner à son peuple. On va voir les procédures dans les autres visions, comment il va donner à son peuple, il va leur ramener le royaume, il va leur ramener la gloire, même plus grande, parce que, comme le Seigneur a dit, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Donc, si le roi, il va être plus grand que Salomon. Imaginez-vous que la gloire du royaume va être aussi plus grande que celle du royaume de Salomon. C'est ce que le Seigneur va faire. Puis après ça, il nous dit, qui de nouveau ainsi parle l'Éternel désormais, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Puis au verset 16, il dit, ma maison y sera rebâtie à la fin du verset 16 et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Quand il parle de cordeau, puis on va le voir à un moment donné, il y a un homme avec un cordeau qui va mesurer. Le cordeau, ça nous fait penser, c'est un instrument, c'est un peu comme un instrument des arpenteurs aujourd'hui. Quand on voit des arpenteurs qui arrivent sur un site, là, puis commencent à mettre des petits piquets, puis commencent à mesurer, puis commencent à prendre connaissance de l'endroit, ben, on sait qu'il va y avoir une construction qui va se faire là. Parce que là, c'est les préliminaires. Là. On vient, les plans ont été faits, puis là, maintenant, on vient situer sur le terrain même. La construction qui va prendre place. Des fois, il y en a qui mettent un panneau avec une image de ce que la construction va avoir l'air quand elle va être construite. Mais déjà, quand les arpenteurs sont sur place, ben, ça garantit que la construction s'en vient. Puis c'est ça qui parle ici. Le cordeau, c'est l'instrument des arpenteurs pour faire les préparations, les préparatifs pour un grand projet. Puis ça va être un grand projet que le Seigneur va faire pour Jérusalem ici. Donc, la maison va être reconstruite. La maison, ben, quand on parle de la maison ici, c'est le temple. Donc, c'est la religion qui va être reconstruite. Ça va être leur relation avec Dieu. Puis, la ville va être rebâtie. Ben, c'est la puissance, ça, ici. Comme il dit dans le verset 16, ma maison, il sera rebâtie. Puis, puis après ça, au verset 17, ainsi parle l'Éternel désormais, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Donc, la ville aussi va être rebâtie. Ça, c'est la puissance civile. Quand il parle de la ville, c'est la puissance civile. Mais la maison, ben, c'est la relation, c'est la religion qui va être reconstruite. Et on va le voir, les autres visions, les sept autres visions vont nous donner un aperçu de comment ça va se faire par l'Éternel, c'est lui-même, parce qu'il est épris d'une grande jalousie pour Jérusalem, il les aime, le Seigneur intercède pour eux autres, puis l'Éternel répond avec des paroles de consolation, des bonnes paroles, des paroles de consolation. Il y a encore un plan pour eux autres, en dépit de ce que plusieurs disent aujourd'hui, que Dieu en a fini avec Israël, il les a rejetés, puis maintenant toutes les bénédictions sont à l'Église, donc Dieu a encore un plan pour Israël qui va accomplir parfaitement. Fait que je m'arrête là pour tout de suite, puis si, je vous donne la possibilité de pouvoir reprendre votre micro. Fait que si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, vous êtes les bienvenus de les partager maintenant.
Oui,
Donc,
Gérald.
si...
Excusez. Moi, dis
Ça va?
Donna.
OK. Merci.
Je
Donc...
pense que Raymond avait commencé. C'est toi, Raymond, qui avait commencé
Non,
ou? Non. OK, Donna, vas-y.
non. C'est que si je comprends bien, la nation d'Israël était la nation la plus en vue, spécialement dans le temps du roi David et du roi Salomon.
Oui.
Après ça, est venu ce qu'on appelle le temps des nations. Et si je comprends bien, Israël va devenir la nation la plus en vue pendant les 1000 ans, c'est ça? Mais le temps des nations, quand est-ce que ça commence? C'est-tu tout de suite après Salomon? Parce qu'il y a eu d'autres rois après Salomon.
Ben, le temps des nations commence avec Nébuchadnezzar. C'est là que c'est ça qu'on voit, c'est ces empires-là, c'est l'empire de Nébuchadnezzar. Avant ça, Dieu a averti par les prophètes, il les a annoncés les châtiments, il leur a donné des châtiments pour les ramener à l'ordre, mais ils n'ont pas écouté, ils ont continué. Il y a eu certains réveils durant ce temps-là, mais à un moment donné, avec Manassé, bien, ça a fini que Dieu, là, il les a envoyés en captivité. C'est là que commence le temps des nations.
Okay.
Puis qui va se
Merci.
continuer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ, on va le voir en avançant, là,
Merci.
avec les quatre cornes, là, on va voir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va reprendre le royaume des nations, puis il va le rétablir pour Israël.
Merci.
Je reviens, merci.
OK.
Je reviens, disons, à ce verset. Ma maison, il sera rebâti. Ce n'est pas, disons, Esdras qui va reconstruire le deuxième temple, ça?
Ben,
Ou
il
non?
parle du temple de Zorobabel. Puis Zorobabel est ici, mais c'est dans le même temps, non? C'est quand tu as le retour de la captivité avec Esdras, Néhémie, Zorobabel, Josué, qui est le souverain sacrificateur, c'est tout ce même peuple-là là, qui sont revenus de la captivité, puis qui ont rebâti la maison de l'Éternel, comme il disait dans les 70 semaines de Daniel. Il dit que les fossés vont être reconstruits, mais dans des temps fâcheux. Donc, ils sont encore, ils ne sont pas dans la puissance, mais ils reconstruisent. Puis Agée, le prophète qui était contemporain de Zacharie, mais il leur dit, hein, comment ça, vos maisons sont lambrissées, vous mettez de l'effort pour construire vos maisons, puis moi, ma maison n'est pas reconstruite. Fait que là, mais il va faire la promesse ici que Zorobabel va reconstruire le temple. Puis c'est ça qu'on appelle le temple de Zorobabel, qui a été rénové par Hérode.
Bon. Merci.
Gérald, combien de temps qu'on peut penser que Nebuchadnezzar, c'est pas dit le nombre de temps, c'est dit un temps marqué, mais pour que ses cheveux viennent longs, que les ongles y poussent, on peut penser un an ou deux ou plus qui a été
Ouais. Ouais, c'est assez jusqu'à temps, parce qu'il dit que celui qui règne puis qui n'a pas la crainte de Dieu, il est comme une bête. Les bêtes regardent à terre. Puis lui, Nebuchadnezzar, on a vu dans Daniel 4, là, il regardait à terre, là, mais jusqu'à temps qu'il lève les yeux vers le ciel. Là, quand la raison lui revient. C'est un temps qui était marqué parce que le Seigneur savait jusqu'à quel point qu'il allait finir par lever les yeux. Puis il a levé les yeux vers le ciel, puis là, la raison lui revint à ce moment-là.
ça veut dire qu'il a été quand même
Ouais.
quelques années, on peut penser, hein?
Ouais. Mais c'est drôle, il disait que le tronc, l'arbre était coupé, c'est un grand arbre. Quand l'arbre était coupé, ben, le tronc était enchaîné. Mais le fait que Dieu lui garde son trône à travers cet épisode-là, comme tu dis, ça a été quand même un bout de temps, là. Mais Dieu a gardé son trône pour pouvoir le remettre dessus quand il lèvera les yeux au ciel. C'est la puissance de Dieu. C'est le contrôle, comment Dieu a le contrôle sur les choses. Qui est capable de faire ça. Il est capable d'abaisser, puis il est capable de relever, puis il est capable de garder, il est capable de préserver. D'autres, on penserait quand tu es dans une situation comme ça, c'est fini maintenant, tu as appris ta leçon, mais tu ne reviens plus à ta position. Mais le Seigneur, il l'a remis à sa position.
Et quand on voit dans le livre de Daniel, au chapitre 4, au verset 32, il dit, Satan passera sur toi.
Ouais.
Est-ce le serpent qui ressort à 7 années? Verset 32 du chapitre 4.
Oui, verset 32 du chapitre 4, un certain temps ouais, qui allait passer sur lui.
Est-ce qu'on peut dire 7 années?
Cette année, OK.
Sept.
Attends, verset 32, on va
Oui,
voir ça.
sept ans.
Un
Le
certain
chiffre
temps.
parfait. C'est dur à dire.
Il dit, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme un bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut. Les 7 ans, ouais, des fois, il parle un temps, des temps, puis la moitié d'un temps, ça peut
Des
être
années.
des années,
Ouais.
mais c'est ça, mais un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Oui, ça peut, mais c'est sûr que 7 ans, ça représente un temps parfait, là. Le chiffre 7 représente la perfection. Mais ça peut être ça, oui.
Moi, c'est cher. Pour la jalousie, j'avais fait une recherche sur la définition.
OK.
Puis je trouvais qu'elle s'appliquait bien au Seigneur. C'est la peur de perdre l'être aimé. Bon, évidemment, la peur ne s'applique pas au Seigneur, là, parce qu'il sait très bien. Mais je regarde aussi dans le texte, à partir du verset. Il dit, c'est pour.
14, 14.
Verset 16,
OK.
c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Donc, la jalousie est comme un sentiment d'amour.
Oui.
Puis donc, tu es comme inquiet de l'être aimé. Tu veux pas qu'il s'éloigne. Trouvais que ça allait bien dans le contexte qu'on
Par
a
exemple,
au Seigneur.
souvent, on définit la jalousie par des actions qui sont portées dans la jalousie. Mais le Seigneur, lui, il s'est empêché. Puis, comme on dit, il y a une sainte colère et une sainte jalousie aussi.
Puis je trouvais que la prophétie, verset 16 dit, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, le cordeau sera étendu sur Jérusalem. J'imagine que le cordeau, c'est je vais rassembler mon peuple. Puis rassembler non seulement Juda et Jérusalem, mais rassembler aussi les 10 tribus d'Israël. Ben, et ce n'est pas dit comme ça, mais je vois dans le futur, t'sais, parce qu'une prophétie, ça a toujours une application immédiate, puis une autre dans le futur.
C'est ça, ouais.
Je voyais comme une. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Fait que je voyais vraiment que c'est une prophétie, mais future, plus dans le millénium, que ça va être complet.
Parce qu'au début, les 12 tribus se rassemblaient à Jérusalem. C'est juste après que quand Jéroboam a divisé que lui, il a fait un endroit différent pour l'adoration, là. Mais c'était pour pas qu'il retourne à Jérusalem. Mais comme tu dis, oui, Seigneur, un jour, il va rassembler à Jérusalem. C'est qu'on est arrivé à l'heure, on va peut-être mais on a dépassé un petit peu. Pour ceux qui doivent partir, s'il y en a qui veulent continuer de parler, on pourra continuer. Et on va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie, Seigneur, que ta parole est vraie. Et ce que tu dis dans ta parole, tu es capable de l'accomplir et tu vas l'accomplir, Seigneur. On te remercie parce que ces choses-là, quand elles seront accomplies, vont démontrer ta puissance, ta grandeur, ta magnificence. Et notre Dieu, nous, on a confiance en toi, puis on garde les yeux tournés vers toi, Seigneur. On te remercie parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Celui qui garde Israël, celui qui nous garde aussi, Seigneur. On te remercie pour ça, pour ton Fils qui intercède pour nous, qui prend soin de nous, et tu réponds par des paroles, des bonnes paroles, puis des paroles de consolation. On te rend grâce pour toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.